voices and the constancy. So if that is how it is,
bonjour et bienvenue, 10h TU midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, le Moyen-Orient, après le fracas des armes, arrive le temps des négociations. Les préparatifs, en tout cas, s'accélèrent au Pakistan, où doivent commencer demain des pourparlers entre Américains et Iraniens, mais avec des doutes à ce stade sur la participation de l'Iran. D'autres pourparlers sont en vue la semaine prochaine à Washington entre le Liban et Israël. Le Liban et sa communauté chrétienne, abordée ce matin au Vatican par le pape Léon XIV et Emmanuel Macron, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. La campagne électorale prend fin en Hongrie avec en nombre porté le rôle joué par la Russie. Dans ce journal aussi, le témoignage très poignant d'un Français libéré après 15 mois de captivité au Venezuela. Au troisième jour de la trêve au Moyen-Orient, place aux négociations. Elles n'ont pas encore commencé, mais elles se mettent en place en l'absence pour le moment du camp iranien. Elles doivent débuter demain, samedi, à Islamabad, sous médiation pakistanaise. La capitale transformée en ville fantôme, où ces discussions auront lieu dans un hôtel de luxe. Côté américain, la délégation est conduite par le vice-président J.D. Vance, aux côtés de l'émissaire Steve Witkoff et du gendre de Donald Trump, Jared Kushner. La présence des Iraniens, elle, reste incertaine après les frappes israéliennes qui ont fait mercredi plus de 300 morts au Liban. Téhéran insiste sur la nécessité pour les Américains de tenir les engagements du cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris le Liban. Trois jours après l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, la vie des Iraniens reprend un cours quasi normal. Les rues et les places de Téhéran ont été envahies hier par les habitants, sortis profiter du retour au calme. Un reportage de notre correspondant Siavosh Ghazi.
Les avenues et les places de la capitale étaient encore vides mercredi, mais ce jeudi, elles ont été envahies par les habitants. Désormais, on croit au cessez-le-feu et à la fin de la guerre. Beaucoup estiment que l'Iran a remporté une grande victoire, comme c'est le cas de Mohammad, un Iranien de 63 ans, qui n'arrive pas à cacher sa joie.
Notre Iran est sorti victorieux. Et c'est vrai que nos jeunes sont tombés en martyrs, mais nous avons gagné à 100%. Dès le début, nous étions victorieux. Et comme le disent les anciens, la réponse du missile est le missile.
Cri de victoire chez beaucoup, ce qui n'empêche pas les expressions d'inquiétude quant à l'avenir, comme l'affirme Mariam, une Iranienne de 50 ans venue prendre l'air autour du quartier du Petit Bazar de Téhéran avec sa fille.
C'est un sentiment mélangé d'incertitude et d'inquiétude. Que va-t-il se passer? Rien n'est clair. Tout est devenu cher. Tout. Sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, rien n'est clair. C'est un avenir noir qui nous attend. La situation économique est très mauvaise. Il y a une récession importante. Tout est comme ça.
Beaucoup espèrent que le cessez-le-feu sera le début d'un retour à la normale et à la paix. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Je le disais, avec plus de 300 morts, le Liban a connu mercredi une journée de frappe israélienne particulièrement meurtrière. 48 heures après, parallèlement aux négociations d'Islamabad, d'autres pourparlers sont en vue à propos du pays du Cèdre. De sources américaines, ils auront lieu la semaine prochaine à Washington entre le Liban et Israël. Pour le moment, rien n'est réglé sur le détroit stratégique d'Ormuz, quasiment bloqué par l'Iran. Le trafic maritime s'écoule au compte-gouttes. Sa réouverture était pourtant l'une des conditions du cessez-le-feu. Le marché mondial du pétrole reste très tendu actuellement, avec un prix du baril aux alentours de 100 dollars. Dans ce contexte, l'Égypte cherche les moyens de sécuriser ses approvisionnements en énergie. Elle vient de conclure un accord pour acheter tout le gaz qui sera produit dans l'immense gisement appelé Aphrodite au large de Chypre. Ce n'est pour le moment qu'une déclaration d'intention, mais elle illustre la volonté de l'Égypte de répondre à des besoins de plus en plus importants. Nicolas Feldman.
Découvert en 2011, le gisement Aphrodite n'est pour le moment qu'au stade de l'exploration, mais l'Égypte se positionne. Déjà, l'accord signé ce mercredi avec les entreprises qui exploitent ce champ gazier doit permettre au Caire d'acheter toute la production future. Objectif, sécuriser de nouvelles sources de gaz, car l'Égypte fait face à plusieurs défis. D'abord, un contexte régional instable. Avec la guerre au Moyen-Orient, les livraisons de gaz israéliens ont été interrompues plusieurs semaines avant de reprendre. Mais surtout, la production nationale égyptienne est en baisse, alors que la demande intérieure, elle, augmente. L'accord sur le gisement Aphrodite doit donc permettre au Caire de sécuriser son approvisionnement en gaz sur le long terme, tout en diversifiant ses sources. L'Égypte devra cependant attendre. La production sur le gisement ne devrait pas commencer avant 2031.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande que soient de nouveau appliquées les sanctions sur le pétrole russe. Des sanctions partiellement levées en raison de la crise énergétique provoquée par la guerre au Moyen-Orient. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, elle, continue sans relâche. Au moins 3 morts dans les dernières frappes, 2 en Ukraine, 1 en Russie. Emmanuel Macron est actuellement reçu au Vatican par Léon XIV, près d'un an après l'élection du pape américain. La première visite au nouveau pape devait être dominée par le conflit au Moyen-Orient, avec une préoccupation partagée pour les chrétiens du Liban. Dans quelques jours, Léon XIV se rendra en Algérie. Emmanuel Macron pourrait faire passer un message en faveur de la libération du journaliste Christophe Glaise, journaliste français incarcéré depuis l'an dernier en Algérie. À Djibouti, petit pays de la Corne de l'Afrique, ces jours d'élection présidentielle. Le grand favori est le sortant, Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis bientôt 27 ans. Il est bien parti pour entamer un sixième mandat. Djibouti est situé devant l'une des routes commerciales maritimes les plus empruntées au monde. Ses autorités ont fait de cet emplacement stratégique le fondement de l'économie du pays. Il repose presque entièrement sur les activités portuaires. Explication de Clotilde Hazard.
À lui seul, le port représente 70% du PIB et permet au pays d'atteindre une croissance stable de 6%, activité principale et presque exclusive, le transit du géant démographique voisin, l'Éthiopie et ses 130 millions d'habitants. Djibouti est son seul accès à la mer et assure 92% de ses exportations et importations. Une interdépendance existentielle pour les deux pays, qui ne fait cependant pas peur à la majorité présidentielle d'Ismaël Omar Guelleh. Selon son porte-parole, Daoud Oumed, aucun port de la région ne peut concurrencer les performances et la localisation du port djiboutien, idéal pour l'Éthiopie, ni le port de Berbera au Somaliland, trop loin, ni le port d'Assab en Érythrée, pas aussi moderne. Les pouvoirs publics ont fait des investissements très importants pour être à niveau, quitte à s'endetter massivement. Le FMI a classé le pays dans la catégorie des pays surendettés depuis 2022. Principal créancier, la Chine, qui détient plus de la moitié de la dette publique. Le géant asiatique y a établi sa seule base militaire sur le continent africain et a fait du port une étape essentielle sur ses nouvelles routes de la soie.
En Hongrie, c'est le dernier jour de la campagne électorale avant les législatives de dimanche, avec en nombre porté l'influence exercée par la Russie. La Commission européenne a réclamé à Budapest des explications après des informations faisant état de conversations au téléphone avec la Russie sur des documents internes de l'UE. La France a dénoncé une trahison de la Hongrie. Il était le dernier Européen détenu arbitrairement au Venezuela. Le Français Julien Février a été libéré après avoir passé 15 mois dans une prison proche de Caracas. Très ému et très marqué à son retour, ce Toulousain de 35 ans s'est confié à François-Damien Bourgerie.
J'arrive pas à réaliser que je suis ici avec vous en fait. Déjà je suis vivant. Que je suis vivant et que je suis ici en France, je n'ai pas encore réalisé, je pense.
La voix de Julien Février s'étrangle en entamant son récit. Il commence en janvier 2025, lorsqu'il est arrêté dans la rue à Caracas.
C'est sous forme de contrôle, comme si vous avez un contrôle de police ou de papier très simple. Il s'approche de vous et là, bon, il est déjà trop tard.
Un kidnapping, dit-il. Le Français passe d'abord un mois dans les locaux du renseignement militaire, avant d'être embarqué avec d'autres vers une destination inconnue.
Et en fait, on vous amène à la campagne, au bout d'une demi-heure, on vous descend de la voiture. On vous fait vous mettre debout face à un mur. Vous avez 2 mètres d'intervalle. Et là, on entend le bruit du chargement des armes, quoi. Et on s'est dit, c'est fini, quoi. Ils vont nous exécuter. Et en réalité, bon, 5 minutes plus tard, c'est là où vous rentrez dans cette prison de haute sécurité qui s'appelle Rodéo 1.
Julien Février va y passer 14 mois dans une cellule, une cage, dit-il, de 2 mètres sur 2 mètres 50.
Vous pouvez être sorti de la cage, maltraité, menacé, menotté, suspendu, complètement nu, hein, pendant plusieurs jours, frappé, taser, matraque.
De retour en France, il attend désormais de l'État un accompagnement médical et une aide financière.
Un témoignage à retrouver en longueur sur notre site RFI.fr. En Birmanie, la junte conforte son emprise. Quelques mois plutôt après les élections de façade, le chef de la junte a prêté serment en tant que président lors d'une cérémonie au Parlement. Enfin, en France, polémique sur le 1er mai, la fête du travail. La secrétaire générale de la CGT dénonce un coup de poignard dans le dos de millions de travailleurs. Les députés ont approuvé une motion de rejet préalable du texte autorisant le travail de certains salariés le 1er mai. Vote qui a pour effet d'envoyer directement le texte devant une commission mixte députés-sénateurs. RFI, midi 10, ici à Paris, l'heure de retrouver Lucie Bouteloup pour 8 milliards de voisins. Très bonne journée.
Retrouvez ce vendredi sur RFI, Littérature sans frontières, avec Catherine Fruchon-Toussaint.
Brings you down, please don't stay alone. Sometimes you feel empty inside. Sometimes you don't want to face life. I can't go away, I couldn't love you. You know my life is a big black day. You know my friend, I'm lost in vain. I can't go away, I'll never be like yesterday. I can't live in this country. Who wants to live in this city? I'm taking control of my life. Maybe one day, you know, you know, you know. Is too long, it brings you down, please don't stay alone. Sometimes you feel empty inside. Sometimes you don't want to face life. I can't go away, I couldn't love you. You know my life is a big black day. You know my friend, I'm lost in vain. I can't go away and never be like yesterday. In this country, who wants to live in this city? I can't live in this country. Who wants to live in this city? I'm taking control of my life. Maybe one day, you know.
Il est très facile d'émettre en modulation de fréquence. Il faut une antenne bien placée, un émetteur, un micro, un casque et un tourne-disque. Le problème, c'est que si tout le monde peut faire de la radio, il n'y a pas techniquement de place pour tous sur la bande FM.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Principe Actif.
Principe Actif, le mix des cultures.
j'achète pas d'Inchina parce que c'est moins cher.
Parce que c'est moins cher, parce que c'est moins cher.
Ils votent écolo, font leur tri sélectif des centrales nucléaires pour leur caisse électrique.
Leur caisse électrique, leur caisse électrique.
Foutent leurs gosses au caté pour apprendre l'éthique. À touche dans son mineur et la messe est dite.
Et la messe est dite, et la messe est dite.
Et la messe est dite. Et la messe est dite. Et la messe est dite.
Il n'avait rien à dire.